de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, chers auditeurs, comment allez-vous?
Ravie de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Tiwi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, la mise au point de la semaine et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre. Le patron de l'OTAN demande à l'Europe d'augmenter sa production d'armes pour aider l'Ukraine. Le conseil de presse et trois candidats à la présidentielle et à la vice-présidence ont publié une déclaration d'indépendance de la presse. Le groupe Hamas prévient qu'une attaque israélienne sur Rafah pourrait faire des dizaines de milliards de victimes. L'équipe indonésienne de badminton est partie en Malaisie pour participer au Batch 2024. Et apprenez les délices culinaires traditionnels au festival célébrant la gastronomie indonésienne. Bon, chers auditeurs, voici les journaux en complet. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a demandé à l'Europe d'augmenter sa production d'armes pour soutenir l'Ukraine. C'est ce qu'a déclaré le chef de l'OTAN dans une interview publiée ce midi par les médias allemands. Comme cité sur la page de Tic.com, avant l'importante réunion des ministres de la Défense de l'OTAN à Bruxelles, en Belgique, et le deuxième anniversaire de la guerre Russie-Ukraine, Stoltenberg a souligné qu'il devait réorganiser et étendre sa base industrielle plus rapidement pour augmenter les livraisons à l'Ukraine et reconstituer ses propres stocks. Le conseil de presse et trois paires de candidats à la présidence et à la vice-présidence ont tenu une déclaration d'indépendance de la presse et signé l'engagement en faveur de l'indépendance de la presse au bâtiment du conseil de presse à Jakarta Central samedi soir. Antara a rapporté que la déclaration s'est déroulée en présence du candidat présidentiel numéro 1 Anies Baswedan, du candidat présidentiel numéro 2 Prabowo Subianto, était représenté par le président de l'équipe de campagne nationale Rozan Ruslani, et du candidat présidentiel numéro 3 Ganjar Pranowo, était présent virtuellement et représenté par le président de l'équipe nationale gagnante Arsyad Rashid. Le président du conseil de presse, Ninik Rahayu, a déclaré que la liberté de la presse est un symbole de réforme et un symbole de maintien de la démocratie. Ninik a également rappelé que la liberté de la presse n'est pas quelque chose de statique. La liberté de la presse sera confrontée aux dynamiques et aux défis tant au sein de l'environnement de la presse qu'à l'extérieur. À la même occasion, le vice-ministre de la Communication de l'Information, Nezar Patria, a déclaré que son parti soutient la déclaration d'engagement en faveur de la liberté de la presse et soutient des élections pacifiques, honnêtes et équitables. Le groupe Hamas, dans un communiqué samedi, a averti que l'opération prévue par l'armée israélienne dans la ville sur le peuple de Rafah pourrait causer des dizaines de milliers de victimes dans la ville, dernier refuge des réfugiés palestiniens. Comme le rapporte de l'AFP, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a ordonné à l'armée de porter son attention sur Rafah. Il a demandé aux responsables militaires et sécuritaires de soumettre au cabinet un plan commun pour évacuer la population et détruire les bataillons du Hamas dans la ville du sud. L'annonce de Netanyahu intervient après que le président américain Joe Biden a émis ses plus vives critiques à l'égard de la réponse d'Israël à l'attaque du Hamas du 7 octobre. L'annonce de Netanyahu a suscité l'inquiétude des dirigeants mondiaux et de l'Organisation Nations Unies. L'équipe indonésienne de badminton est partie en Malaisie pour participer au championnat d'Asie par équipe de badminton ou BAC 2024 samedi. Cet événement par équipe asiatique aura lieu au Setia City Convention Center Selangor, Malaisie, du 13 au 18 février 2024. Comme le rapporte d'Antara, l'équipe indonésienne est renforcée par 8 joueurs masculins et 10 joueurs féminins, ainsi qu'un entraîneur, un chef d'équipe et une équipe de soutien. En championnat, l'équipe masculine rejoint le groupe D avec la Corée du Sud, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Pendant ce temps, l'équipe féminine est dans le groupe X avec Hong Kong et le Kazakhstan. Le festival célébrant la gastronomie indonésienne organisé par Pusaka Rasa Nusantara à Taman Ismail Marzuki, Jakarta, a lieu du 2 au 11 février 2024. Le président de l'équipe Pusaka Rasa Nusantara, Meilati Batubara, a déclaré à Antara que la tenue de l'exposition visait à accroître les connaissances de la jeune génération sur les délices culinaires indonésiens et à soutenir les efforts visant à préserver les recettes culinaires indonésiennes traditionnelles. Ce festival peut être un moyen d'apprendre les délices culinaires traditionnelles indonésiennes. Lors de cet événement, les visiteurs peuvent voir des épices typiquement indonésiennes telles que la cardamome, la noix de bougie, la coriandre, le poivre et le cumin, ainsi que des ingrédients alimentaires tels que l'orge, le kecombrang, la fleur de bananier et le keluak. Une variété d'aliments fermentés typiquement indonésiens et d'ustensiles de cuisine provenant de diverses régions d'Indonésie ont également été exposés au festival. En outre, des démonstrations culinaires ont été organisées par des chefs et des descendants de familles qui préservent encore les recettes traditionnelles régionales. C'est tout le journal d'aujourd'hui. Voici la mise au point de la semaine dont le titre est « Le ministère de la Santé et l'OMS travaillent ensemble pour soutenir un certain nombre de programmes de santé ». Le ministère indonésien de la Santé et l'Organisation mondiale de la santé ou OMS ont conclu jeudi un accord de subvention et un plan de travail conjoint de l'OMS pour l'exercice biennal 2024-2025 pour soutenir un certain nombre de programmes. Le secrétaire général du ministère de la Santé, Kunta Wibawa Dasanugraha, dans un communiqué officiel à Jakarta, a déclaré que l'accord marquait non seulement la poursuite du partenariat solide entre les deux parties, mais aussi la collaboration importante pour réaliser le programme général de l'OMS, le plan national de développement à moyen terme 2020-2024 et surtout la transformation de la santé initiée par le ministère. En signant cette collaboration, le ministère de la Santé était représenté par le secrétaire général Kunta Wibawa Dasanugraha et l'OMS d'Indonésie était représentée par le docteur Paranitaran. La collaboration avec l'OMS se concentrait sur le soutien aux activités stratégiques visant à mettre en œuvre les piliers de la transformation dans le secteur de la santé avec une bonne responsabilisation. Ce soutien, selon Kunta Wibawa, est réalisé par les activités décrites dans le plan de travail conjoint de la République d'Indonésie et OMS d'Indonésie pour le budget programme de l'OMS 2024-2025. L'un d'eux mène des recherches de mise en œuvre, à savoir une approche de recherche pour répondre aux besoins du système de santé conformément aux directives du ministre de la Santé, Budi Gunadi Sadikin. Selon lui, la recherche sur la mise en œuvre a été coordonnée par l'Agence pour la politique de développement de la santé, ou abrégée BKPK en Indonésie. Alors, on espère qu'il y aura une coordination intense entre l'OMS et le BKPK dans la réalisation des recherches sur la mise en œuvre dans le cadre du plan de travail commun 2024-2025. Kunta a expliqué que cet accord de 2 ans reflète la coopération dans les 6 piliers de la transformation de la santé, l'enseigne étant mis principal sur la promotion de modes de vie sains, l'expansion de la vaccination, le dépistage obligatoire et l'amélioration de la qualité et de l'accessibilité des services de santé primaire. Selon lui, pour parvenir à la transformation du secteur de la santé, le soutien de toutes les parties prenantes, y compris l'OMS, est nécessaire afin que l'objectif commun de créer un meilleur système de santé et d'améliorer les services de santé de meilleure qualité puisse être atteint. Voici l'histoire d'aujourd'hui, le 11 février. On commence par le 11 février 1929, l'indépendance du Vatican est devenue le premier cœur de l'histoire d'aujourd'hui cette fois-ci. En 1870, dans le cadre du mouvement d'unification italien, le Vatican a été incorporé au territoire italien. Cependant, l'Église catholique romaine ne l'accepte pas. Cela donne lieu à un conflit entre l'Église et le royaume italien qui est finalement résolu avec l'accord du Latran, ou connu sous le nom de Concordat. L'accord a été signé le 11 février 1929 par le cardinal Gaspari représentant Pie XI et Benito Mussolini représentant le roi Victor Emmanuel III. Les principaux contenus de cet accord sont la reconnaissance de l'État souverain et indépendant du Vatican sous le gouvernement du Saint-Siège, un statut spécial pour la religion catholique en Italie et une compensation au Vatican pour les pertes subies lors de la fondation de l'État italien. La suite, le 11 février, le jour de la fondation du Japon. Le jour de la fondation du Japon commémore l'événement au cours duquel l'empereur Jimmu est monté sur le trône basé sur les archives du Nihon Shoki et du Kojiki qui, selon les calculs du calendrier scolaire, s'est produit le 11 février 660 avant Jésus-Christ. Le jour de l'établissement de l'État a été institué avec la révision de la loi japonaise sur les jours fériés en 1966. En juin 1966, le jour de l'établissement du Japon a finalement été adopté comme jour férié à la condition que la date soit déterminée ultérieurement par une instruction du cabinet. La date a été déterminée par le bureau du premier ministre japonais avec l'aide de scientifiques. Sur les 10 personnes qui ont participé à la réunion, 7 personnes ont convenu que le 11 février serait la journée de la formation de l'État. Les résultats de l'accord ont été soumis le 8 décembre 1966 et le lendemain, le 9 décembre 1966, ils ont été transformés en instructions du cabinet. Le 11 février 1971, la naissance de Susie Susanti. Lucia Francisca Susie Susanti est une joueuse de badminton indonésienne. Susie est née à Tasikmalaya le 11 février 1971. Susie Susanti est la première médaillée d'or indonésienne aux Jeux Olympiques. En 1992, le badminton est devenu pour la première fois un sport olympique officiel. Susie Susanti est mariée au joueur de badminton Alan Budi Kusuma. Ce couple a été surnommé le couple d'or olympique parce qu'ils ont tous deux remporté l'or olympique pour l'Indonésie aux Jeux olympiques de Barcelone en 1992. En 1992, Susie Susanti a également reçu la médaille honorifique de la République d'Indonésie Bintang Jasa Utama. Elle est considérée comme une légende de badminton en raison de nombreux prix internationaux qu'elle a remportés en simple féminin et en équipe féminine. La Fédération internationale de badminton a décerné en mai 2004 le prix Hall of Fame à Susie Susanti. Voilà l'histoire d'aujourd'hui.
Sadar ku temukan wanita rupawani yang sadarkan dia seorang tiada lain tiada bukan hanya dia. Dia buat punya dalam hangat pelukan, dia perasa yang mengerti yang ku rasa, hanya dia. Kan ku arungi tujuh laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hati. Kau dan aku sempurna, semoga ada cara untuk terus bersama. Selalu ku tunggu, tak mau berlalu kau dan aku. Kan ku warungi tujuh laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk jaga hatiku, oh, oh, oh. mendaki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hatiku. Oh, karena bersamamu semua terasa indah. Bunda gulana hatiku telah hancur sirna. Janjiku takkan ku lepas, wahai kau bidadariku dari surga untuk selamanya.
Voice of Indonesia.
Voilà la chanson de pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sous la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Et voici mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous, mon Indonésie d'aujourd'hui, dont le titre est IADO augmente son personnel d'éducateurs antidopage par le programme PRESI. L'organisation indonésienne antidopage, ou IADO, tente d'augmenter le nombre d'éducateurs antidopage par le programme de présentateurs éducatifs, ou PRESI, pour répondre aux besoins de services éducatifs visant à sensibiliser les athlètes du pays. Le président général de IADO, Gatot S. Dewa Broto, a déclaré mardi à Jakarta, cité par Antara, que la sensibilisation des athlètes au dopage est encore insuffisante, de sorte qu'il est urgent que les éducateurs soient à l'avant-garde pour accroître la sensibilisation à l'antidopage. Selon lui, le personnel éducatif antidopage de IADO fait encore très défaut. À IADO, elle-même, il n'y a actuellement que 3 personnes. En outre, la sensibilisation des athlètes au dopage est encore insuffisante. Il est donc urgent que les éducateurs soient à l'avant-garde de la sensibilisation à la lutte contre le dopage. IADO a noté qu'il y a eu 6 cas d'athlètes dopants en 2023. Ce chiffre, a déclaré Gatot, est assez surprenant et préoccupant car en 2022, il n'y aurait aucun cas de dopage. Il a expliqué que le programme PRESI impliquait divers partis tels que des universitaires, des commissions de formation et d'anciens athlètes pour concevoir conjointement un programme éducatif. Le programme et le matériel pédagogique seront modifiés et adaptés à la culture indonésienne. Gatot a déclaré que lorsque le programme et d'autres questions techniques seront prêts, IADO annoncera l'ouverture du recrutement des éducateurs ainsi que la qualification et les exigences. Il a ajouté que le besoin d'éducateurs est très important étant donné qu'il existe de nombreuses activités ou championnats sportifs nationaux et internationaux auxquels les athlètes participeront en 2024, dont la Semaine nationale du sport, UPON à Aceh, et au Sumatra du Nord qui se tiendra dans le futur proche. C'est tout mon Indonésie.
Karena kamu aku rela menunggu semua. Sungguh berat yang kurasa. Karena kamu aku tetap bertahan. Meskipun kini engkau dipeluknya. Masih mungkinkah semua abadi seperti dahulu? Karenamu, selalu karenamu ku cemburu. Tinggalkan dia untukku sekarang.
Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Chers auditeurs, on dit que le nouvel an chinois à Betawi ne serait pas occupé sans Tanji d'or, car l'art de Betawi Tanji d'or participe depuis longtemps à l'animation des célébrations du nouvel an chinois dans cette capitale. Tanji d'or se confond avec la joie de la communauté chinoise d'Indonésie célébrant le nouvel an chinois. Tanji d'or est une musique folklorique ou un orchestre betawi qui utilise des instruments de musique lourde, en particulier des instruments à vent. Tanji d'or est généralement abrégé en tanji, ce qui signifie tambour, parce que ce qui est battu est un tambour qui sonne d'or, d'or, d'or. Puis il est combiné à un tanji d'or. Dans les temps anciens, lors des célébrations du Nouvel An chinois, les routes principales des régions de Glodok Pancoran, Senen et Jatinegara étaient remplies de musique tanji d'or. Ce n'est pas seulement la communauté chinoise qui a participé à la célébration du Nouvel An chinois, mais il y avait aussi des Betawi, des Javanais, des Sundanais, des Bugis, des Arabes et des Néerlandais. Les enfants ont quitté la maison à partir de 16 heures, vêtus de vêtements et de chaussures neuves, et leurs proches étaient remplis de pétards. Armés d'un sang allumé, les enfants déclencheront les pétards. À cette époque, le son de pétard et de la musique tanji d'or accompagnaient toujours les célébrations du Nouvel An chinois. La musique tanji d'or existe depuis l'époque néerlandaise. Tanji d'or vient en fait du mot portugais tangedor, qui signifie instrument de musique à cordes. À l'origine, cet art était pratiqué par les ouvriers des villages appartenant aux marchands et aux autres fonctionnaires du gouvernement des Indes néerlandaises dans les régions de Citerup, Pondok Gede, Tanjung Des, Kiseeng et Chimanggis pour accompagner des dîners ou des fêtes devant leurs invités.
Les instruments de musique joués comprennent la trompette, la clarinette, le trombone, la grosse caisse, la batterie et les cymbales. Au début, ils interprétaient des chansons néerlandaises, mais plus tard, ils interprétaient également du Jali Jali, du Kichir Kichir et d'autres. Cet art continue de se développer jusqu'à devenir un art qui doit être présent lors des grandes fêtes dans le Nouvel An chinois. Le tanjidor dans la société betawi est généralement utilisé pour animer des événements tels que des mariages, des propositions, des cortèges de mariés circoncis, de grands défilés de vacances et autres. Cette musique tanjidor sera jouée lors des célébrations du Nouvel An chinois. Ils se promènent d'une maison à l'autre et reçoivent de l'argent de l'autre célébrant le Nouvel An chinois. Habituellement, les joueurs de tanjidor sont composés de 5 à 8 personnes. On espère que l'atmosphère du Nouvel An chinois de cette année sera encore plus festive avec la présence continue de tanjidor. Chers auditeurs, joyeux Nouvel An chinois! Puissiez-vous toujours être en bonne santé. À bientôt!
Sekian lamanya kita tak berjumpa. Namun tak sengaja berpapasan ku denganmu. Tatapan yang sama, rasanya yang lama. Namun ku kecewa, kau tak peka. Oh, telah lama ku menunggu dirimu. Coba hubungiku, salah hatiku berhati.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, en plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie.
Les éditeurs de Voice of Indonesia, voici l'Indonésie en couleur, dont le titre est « Un médecin en pharmacie de l'Université d'Indonésie découvre que les feuilles de gambier sont un produit à base de plantes réduisant le cholestérol. » L'Indonésie, en tant que pays doté d'une méga biodiversité, possède une richesse extraordinaire en biodiversité. L'Indonésie compte environ 17 000 îles qui abritent des habitants pour des milliards d'espèces végétales et animales. Cette richesse naturelle est utilisée sous forme de produits à base de plantes bénéfiques pour la santé. Récemment, un docteur en pharmacie de l'Université d'Indonésie a découvert les bienfaits de feuilles de gambier comme réducteur de cholestérol. Docteur en sciences pharmaceutiques, faculté de pharmacie, Université d'Indonésie, docteur Abt Nana Yunarto a découvert un nouvel espoir dans la recherche naturelle de l'Indonésie, à savoir la plante gambier ou Uncaria gambier. Il a été prouvé que cette plante a la capacité de réduire le niveau de graisse dans le sang. L'effet de réduction des taux de graisse dans le sang est dû à la teneur en catéchine contenue dans les feuilles de gambier. Cette recherche a été réalisée par essai clinique de la fraction acétate d'éthyl des feuilles de gambier sous forme de comprimé pellicule. Ce comprimé pellicule de fraction d'acétate d'éthyl de feuilles de gambier est fabriqué à l'échelle de production dans des installations industrielles qui répondent aux normes des bonnes pratiques de fabrication de médicaments. Les résultats des essais cliniques prouvent que l'association de 10 mg de simvastatine et de 2 comprimés pellicules de fraction d'acétate d'éthyl de feuilles de gambier ou dose 1000 mg donne les meilleurs résultats en termes de réduction du cholestérol total, des triglycérides, des taux de LDL et d'augmentation des taux de HDL. En termes de sécurité, l'utilisation de ces comprimés est sûre pendant 2 semaines, n'affecte pas le fonctionnement des organes vitaux et ne présente pas d'effets négatifs préjudiciables aux patients. Grâce à ces découvertes, les feuilles de gambier ont le potentiel d'être un produit phytopharmaceutique à base de plantes efficaces et sûres pour traiter le problème de l'hyperlipidémie. Avec une production d'extraits de gambier atteignant près de 27 000 tonnes chaque année en Indonésie, la disponibilité de cette matière première est très suffisante pour la production indépendante de produits phytopharmaceutiques à base d'extraits de feuilles de gambier. Cela peut certainement soutenir le programme du gouvernement visant à accélérer le développement des produits phytopharmaceutiques et à réduire la dépendance aux matières premières importées.
Sadar ku telah sosok seperti dirimu.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, voilà la chanson de pop indonésienne.
Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous. Cette fois-ci, je parle d'une chanson de Indra Sinaga. Indra Perdana Sinaga, ou mieux connu sous le nom de Naga, un musicien actif dans l'industrie musicale indonésienne depuis 18 ans, est le chanteur du Adaben. Le 24 janvier, il sort son projet solo intitulé Terjemahan Cinta. Cette chanson décrit quelqu'un qui a vraiment le sentiment que la personne la plus proche d'elle a été présentée par Dieu comme son partenaire de vie. Ils ne forment pas seulement un couple complémentaire, mais aussi un complément à l'histoire de vie. Dans cette chanson, Naga a collaboré avec Randy Pandugo en tant qu'arrangeur et producteur. Cette chanson du genre pop des années 80-90 est une invitation aux éditeurs à toujours se soucier de la bonté. Ceci est également contrebalancé par le maintien et la gratitude pour les cadeaux qui ont été reçus et possédés. Bon, chers auditeurs, voici Indra Sinaga avec Terjemahan Cinta. Bonne écoute!
Aku adalah manusia tak peka rasa, begitu lama menanti yang pantas. Sepi terasa hanya untuk sementara, hingga engkau tiba mengubah segalanya. Tuhan menciptakanmu dikala sedang memikirkanku. Kehadiranmu sungguh melengkapi kekurangan ini. Terima kasih untuk segala. Tuhan menciptakanmu dikala
sedang memikirkanku, kehadiranmu sungguh melengkapi kekurangan ini. Terima kasih untuk segalanya, tak cukup lagi kata. Melengkapi kekurangan ini. Terima kasih untuk segalanya, tak cukup lagi kata. Kau begitu berharga, kau terjemahan arti kata cinta. Paling berharga.
Voice of Indonesia.
Thank you. cinta bila hati hanya padamu. Aku berharap cinta. Apakah cinta masih mungkin kembali untukku darimu sayang? Salahkah cinta bila hati hanya padamu? Aku berharap cinta.
Voice of Indonesia.
Aku terpaksa menangis, aku terpaksa merintih. Cahayaku semakin redup, memilukan. Kau masih bisa ku lihat, suaramu masih ku dengar. Namun kenyataan ini mengharukan. Seseorang di sana telah memilikimu. Aku kan berdosa bila merindukanmu. Oh mantan kekasihku, jangan kau lupakan aku. Bila suatu saat nanti kau merindukan
chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.